Genève. Côté. Nature.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans Genève Côté Nature, votre émission verte hebdomadaire qui vous est présentée par l'association Nariès. Je suis Virginia et j'ai fondé cette association et créé cette émission avec ma sœur jumelle Émilie qui est là également pour vous parler aujourd'hui. Bonjour! Les jours rallongent, la météo devient plus clémente, du moins c'est ce que l'on espère tous. Certains jours nous avons un grand ciel bleu et d'autres nous n'apercevons pas un seul rayon du soleil, c'est plutôt frustrant. Surtout quand cette nappe grise dure des jours et des jours et des jours. Mais qu'est-ce donc que ce tapis gris que nous voyons au-dessus de nos têtes? Comment se forme-t-il? Comment pouvons-nous l'interpréter? Voici quelques indices sur le thème du Côté Science. Aujourd'hui, nous allons parler des nuages. Alors, qu'est-ce donc qu'un nuage? Eh bien, c'est une masse formée à la base d'une quantité impressionnante de gouttelettes d'eau qui s'est condensée à partir de la vapeur d'eau contenue dans l'air. Selon les conditions, les gouttelettes ne sont pas forcément toutes sous forme liquide. Il peut y avoir des cristaux de glace, voire quelques minéraux. Les nuages se situent au-dessus de notre planète, en suspension dans l'atmosphère. Ils peuvent prendre plusieurs formes, en fonction de leur taille, de la lumière qu'ils reçoivent, des particules qui le constituent, de la température, etc. D'ailleurs, la température influe aussi sur le nombre maximal de vapeurs d'eau que peut contenir l'air. Plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de vapeur. Selon les époques, les nuages ont été considérés comme des voiles de Dieu ou comme un phénomène naturel sans toujours parvenir à expliquer comment ces particules restent en l'air et flottent. Le caractère sacré reste tout de même prépondérant jusqu'au XIXe siècle. Ensuite, les scientifiques commencent à être de plus en plus respectés et les moyens à leur disposition évoluent. On peut alors en apprendre davantage. Les artistes utilisent aussi les nouvelles connaissances des scientifiques pour placer des nuages dans leurs œuvres. C'est aussi au XIXe siècle que les premières tentatives ont lieu pour utiliser les nuages pour prévoir la météo. Évidemment, on connaissait déjà le baromètre à cette époque. Il a été inventé aux alentours de 1700. C'est Galilée qui a lancé les prémices, puis Torricelli et Descartes qui ont terminé. On ne va pas retracer l'historique complet de cet instrument aujourd'hui, mais j'avoue que c'est une bonne idée d'émission. On vous présentera une série d'instruments historiques une prochaine fois. Pour aujourd'hui, on va directement aller au fait que les scientifiques ont compris que la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, grâce notamment à Blaise Pascal qui a continué les travaux de ses prédécesseurs. C'est en 1665 que le mot baromètre apparaît. Il signifie « mesure du poids », de baros, poids, pesanteur en grec. Sous-entendu, le poids de l'air. Il faudra ensuite attendre 2 siècles pour que les graduations s'accompagnent d'indications météorologiques, par exemple beau temps, temps variable, tempête, temps sec, etc. Respectivement, si la pression atmosphérique est basse, on prévoit un temps mauvais. Et si la pression est haute, c'est que les conditions météo vont s'améliorer. Alors, entre-temps, en 1802, Jean-Baptiste de Lamarck, et oui, encore lui, a proposé la première classification scientifique des nuages en listant des critères descriptifs. Malheureusement, il avait fait sa classification en français, et elle n'eut de ce fait pas le succès escompté. C'est celle de Luke Howard, en latin, publiée en 1803, donc juste après, qui fut reconnue et dont la terminologie est encore utilisée aujourd'hui. Quelques ajouts ont suivi une cinquantaine d'années plus tard. Aujourd'hui, l'édition publiée par l'Organisation Météorologique Mondiale, donc OMM, qui fait foi dans les différents services météorologiques nationaux, est une version qui date de 1956. Après ce petit historique, posons-nous la question : comment se forment les nuages ? On a dit avant déjà que ce sont des gouttelettes d'eau condensées. On va donc parler du cycle de l'eau pour bien visualiser le voyage d'une goutte. Commençons dans une mer. La goutte est sous forme liquide. Avec le rayonnement du soleil et la chaleur, une évaporation va se produire. La petite goutte se transforme alors en vapeur d'eau. Donc, elle est sous forme gazeuse. Elle va monter dans l'air, ce qui va provoquer sa condensation avec d'autres petites gouttes. Cette condensation est due à une diminution de la température et une augmentation de la pression qui se produisent quand les gouttelettes montent en altitude. Et c'est là que les nuages se forment. Une autre possibilité est que le refroidissement se produise par contact avec une surface froide. Et dans ce cas-là, il y a alors du brouillard qui se forme. Une fois que la condensation s'est produite, la pression va encore augmenter et va comprimer la masse. Les nuages peuvent alors perdre une partie de leur eau sous forme de précipitation. Là encore, selon la température, elles peuvent être sous forme de pluie, de grêle ou de neige. Dans tous les cas, à ce moment-là, nos gouttelettes retombent sur Terre. Soit elles tombent sur la Terre ferme et vont s'infiltrer dans le sol et percoler jusqu'aux nappes phréatiques, soit elles rejoignent une rivière qui va gentiment les reconduire dans une masse océanique.
Si on reconsidère la masse des nuages à l'inverse de la condensation, si l'air subit un réchauffement soudain, il va s'assécher partiellement, puisqu'on a dit qu'un air chaud peut contenir davantage d'eau, et les nuages vont peu à peu se dissiper.
Tout le monde a déjà vu des nuages, certes, mais il y a des zones de la planète où ils sont plus abondants, comme la bande de l'équateur, parce que les mouvements d'air verticaux sont très importants. Ils sont aussi très fréquents au-dessus des masses océaniques, les nuages. De même, le relief favorise la formation de nuages. Sur une pente de montagne, l'air est comme forcé vers les hauteurs et la production de nuages et de précipitations va augmenter.
On a dit au tout début que les nuages se forment dans l'atmosphère, certes. Mais il y a différents étages dans l'atmosphère et selon l'étage auquel le nuage se condense, la forme du nuage va varier. On classe d'ailleurs les différents types selon leur développement vertical et on prend en considération la hauteur de leur base au-dessus du sol selon trois étages. On ne regarde pas la hauteur de leur sommet. On les divise aussi selon des familles dont on va parler sous peu. Pour nommer les différentes sortes de nuages, on utilise une dénomination binomiale, ben, ça vient quand même de la marque, comme pour les organismes vivants, avec un genre et une espèce, et on peut lui ajouter un descriptif appelé variété.
Les nuages se forment donc dans l'atmosphère et dans une grande zone de l'atmosphère appelée troposphère. Cette troposphère a été divisée verticalement en trois étages appelés inférieurs, jusqu'à 2 km au-dessus du sol, moyen, de 2 à 4 km vers les pôles, 8 km dans les tropiques et jusqu'à 7 km ailleurs. Et le dernier étage est l'étage élevé, de 4 à 8 km pour les pôles, de 8 à 18 km aux tropiques et de 7 à 13 km ailleurs. Ces différences sont dues au fait que l'atmosphère n'a pas la même épaisseur partout sur la Terre.
Concernant les genres, on en distingue 10 différents. 3 sont des genres principaux. Cirrus, qui correspond aux nuages élevés, stratus, qui correspond à des nuages bas qui se développent horizontalement, et cumulus, des nuages bas qui se développent verticalement. Il y a évidemment des dérivés qui mixent un peu tout, ce serait trop simple sinon. Cirrostratus, cirrocumulus et stratocumulus. Et on a encore 4 autres genres qui sont dérivés, les altocumulus et altostratus, qui ont une base à plus que 2 km du sol, et les cumulonimbus et nimbostratus qui amènent des précipitations.
Donc ça, c'était les genres. On a dit avant que, comme pour les organismes vivants, on décrit les nuages avec un nom de genre et un nom d'espèce. Ces noms permettent de décrire la forme des nuages, leur dimension, leur structure interne ou la manière dont ils sont formés.
Évidemment, ce n'est pas fini, on peut encore ajouter une variété qui permet de décrire leur transparence et l'organisation des macroéléments qui les composent.
Eh ben, c'est bien compliqué tout ça, d'autant plus que parfois les nuages sont encore un peu plus divisés, ou plutôt, plusieurs nuages semblent accolés les uns aux autres, ce qui rajoute encore des termes à cette terminologie.
Mais comment peut-on s'en sortir alors? Si quelqu'un n'est pas météorologue, peut-il juste décrire le nuage ou c'est impossible?
On peut rester dans les genres de base, mais c'est vrai que pour être précis, ça devient assez vite compliqué. Après, tous les nuages ne sont pas visibles tout le temps, il y en a même qui sont plutôt rares. Donc, pour les ciels de tous les jours, on arrive à s'en sortir avec les grandes catégories. Typiquement, les nuages tout rebondis qu'un enfant peut dessiner s'appellent des cumulus. Il nous importe ensuite peu de dire qu'il s'agit d'un cumulus fractus radiatus panus, issu d'un altocumulus et pouvant donner un stratus.
Surtout que dans bien des domaines, on regarde le ciel pour imaginer la météo du jour suivant ou des heures suivantes. Si on devait tous faire des études de météorologie pour s'en sortir, on n'y arriverait jamais.
On va donc vous donner de grandes classes pour vous aider à repérer leur présence dans le ciel et imaginer le temps qu'il va faire. Ce n'est pas toujours aussi précis que ce que la météo nous dit, mais est-ce que la météo a vraiment toujours raison? La question se pose.
Alors premièrement, si vous voyez de longs filaments de nuages s'étaler dans le ciel, formant un voile blanchâtre sur le ciel bleu, ce sont les fameux cirrus, cirrostratus ou cirrocumulus, et ils annoncent le mauvais temps. Ensuite, nos grands-parents disaient « brebis qui paissent aux cieux font temps venteux et pluvieux ». Ça veut dire que quand on voit des moutons dans le ciel, donc des nuages qui sont tout arrondis et assez hauts, ce sont des altocumulus et ils annoncent la pluie ou la neige. C'est aussi le cas pour les altostratus qui sont des sortes de rouleaux opaques d'un blanc grisâtre. On a un peu le même résultat si les nuages sont bas, d'aspect uniforme et lourds en mode nuage des primes. Ces nappes grises sont des stratocumulus ou des nimbostratus si elles sont grises, épaisses et sombres et elles annoncent du brouillard, de la pluie ou de la neige. En revanche, si on a des nuages à développement vertical, donc des cumulus ou des cumulonimbus dont les contours sont très précis, le beau temps va revenir. Mais il peut y avoir des averses si ces nuages s'agrandissent. Donc en gros, pour résumer, si vous avez de gros nuages blancs et hauts, il fera beau. Et si vous avez des nuages noirs et bas, il va pleuvoir. Je crois que jusque-là, on peut tous s'en tirer. On va faire ici une petite incartade sur nos nuages parce qu'il existe d'autres moyens de connaître le temps qu'il va faire. Par exemple, vous pouvez observer la couleur du ciel en fin de journée. S'il est rouge, c'est que le ciel est bien dégagé, ce qui est un bon signe pour le temps du lendemain. En revanche, si c'est au soleil levant que le ciel est rouge, c'est que la pluie est en chemin. Vous pouvez aussi respirer l'air ambiant. Et oui, il faut savoir que quand la pression atmosphérique diminue, les végétaux ouvrent leurs pores ou stomates pour favoriser les échanges gazeux avec le milieu extérieur. Et du coup, on sent davantage le parfum de la végétation quand la pluie va arriver. Et oui, une basse pression signifie qu'il va pleuvoir, tandis qu'une haute pression présage du beau temps. Et on peut aussi regarder les oiseaux. Ils volent haut dans le ciel quand le temps est calme et bas quand il commence à se dégrader. Et finalement, on peut regarder le ciel, mais la nuit. Alors évidemment, si on voit des étoiles, c'est qu'il n'y a pas de nuages, ça paraît logique. Par contre, on dit que si la lune est brillante et claire, il va faire beau, mais si elle est entourée d'un halo, le temps va se dégrader. Et il ne faut pas oublier qu'en hiver, si le ciel est très clair, il va peut-être faire beau, mais les températures vont chuter parce que justement, un ciel qui contient moins d'humidité retient moins la chaleur. On va s'arrêter là pour la première partie de cette émission. Aujourd'hui, on vous propose d'écouter Grégoire et sa chanson « Nuages » qui nous dit que si le vent souffle les nuages, tout devient possible.
Radio Cité Genève.
Si le vent pousse les nuages, on apercevra le soleil. Et l'on pourra tourner la page de ces matins pauvres réveils. Ces matins qui gardent en otage nos envies au fond d'un sommeil. Sortir la tête de ce potage, crier les rêves que l'on bégaye. J'ai l'horizon dans mes bagages, des aventures à t'inventer. Pas de frontières, autre péage, pas de limite à s'en aller. Au-delà de nos marécages, où l'on ne peut que s'enliser, où jamais rien ne nous soulage, mais je sais qu'on peut s'envoler. Si tu me suis, si tu me crois aussi, si tu me suis, si seulement et seulement, si tu me suis, si tu me crois aussi, si tu me suis, si seulement et seulement, si le vent pousse les nuages, on apercevra le soleil, on s'en ira vers d'autres plage où la vie n'est jamais pareille, on se perdra sur des rivages, dans des océans de merveilles, on fera peut-être naufrage, je crois qu'il faut que l'on essaye, atteindre d'autres paysages, des galaxies inexplorées, ne plus sentir geindre la rage, ni m'entendre se lamenter, oublier les sombres ravages, de leurs principes et leurs idées, en trouvant un pont, un passage, n'importe quoi pour s'évader. Si tu me suis, si tu me crois aussi, si tu me suis, si seulement et seulement, si tu me suis, si tu me crois aussi, si tu me suis, si seulement et seulement, si le vent pousse les nuages, on apercevra le soleil. Si ton vent pousse mes nuages, on apercevra le soleil. Si le vent pousse les nuages, on apercevra le soleil. Si mon vent pousse tes nuages, on apercevra le soleil. Si tu me suis, si tu me crois aussi, si tu me suis, si seulement et seulement, si tu me suis, si tu me crois aussi, si
C'était Nuages de Grégoire. Vous êtes de retour dans Genève Côté Nature, l'émission de l'association Nariès que ma sœur Virginia et moi, Émilie, vous présentons chaque semaine sur Radio Cité Genève. Aujourd'hui, nous sommes dans un côté science et nous parlons des nuages. Dans la première partie, nous avons un peu évoqué l'interprétation des nuages au cours de l'histoire, qui était pendant longtemps sacrée jusqu'à ce qu'on commence à comprendre leurs mécanismes de formation et leurs caractéristiques. On a ensuite parlé de la dénomination des nuages, qui s'avère sacrément complexe si on cherche à aller en détail. Mais on peut s'en sortir avec les grandes catégories qui sont au nombre de 10. Les cirrus, cirrocumulus et cirrostratus sont des nuages très hauts. Les cirrus sont de fins voiles blancs qui amènent une perturbation. Ce sont eux qui ternissent l'éclat du soleil ou de la lune. Les cirrocumulus sont des couches de minuscules flocons blancs qui annoncent un changement de temps. Les cirrostratus sont des voiles plus opaques qui annoncent aussi un changement de temps. Les altocumulus et altostratus sont des nuages de l'étage moyen. Les altocumulus forment un ciel pommelé, ils ressemblent à une nappe de galets. Ils annoncent aussi un changement de temps. Les altostratus forment des nappes striées ou uniformes et couvrent le ciel en larges bancs. Ils donnent de la pluie fine en été et de la neige en hiver. Le nimbostratus est un nuage important qui peut déborder sur plusieurs étages. Il est épais et donne de la pluie ou de la neige pendant plusieurs heures. On dirait souvent qu'il est éclairé de l'intérieur. Les stratocumulus et stratus sont des nuages bas composés de gouttelettes d'eau liquide. Les stratocumulus sont gris-blanc avec des parties sombres. Ils correspondent à un temps couvert mais sans précipitation. Ce sont les nuages les plus communs avec une base plate et basse en altitude. Les stratus sont des couches de nuages souvent continues et grises, parfois un peu déchiquetées. Ils génèrent du brouillard quand ils sont assez bas pour toucher le sol et peuvent donner de légères précipitations de type bruine. Et finalement, on a les cumulus et cumulonimbus qui peuvent aussi être sur plusieurs étages et qui sont des nuages instables. Les cumulus sont des nuages de beau temps, d'un blanc éclatant. Ils peuvent avoir une taille impressionnante et ils ont des contours nets avec une partie supérieure qui ressemble à un chou-fleur. Les cumulonimbus, quant à eux, sont porteurs d'orage, voire de grêle. Ils forment des volutes au sommet en panache. C'est en fait le seul genre qui peut provoquer de réels orages. Voilà un sacré résumé. Il faut quand même apprendre une certaine terminologie pour pouvoir faire quelque chose. Mais on commence à voir les grandes catégories. N'hésitez pas à taper sur internet « décrire les nuages ». Vous trouverez de nombreux sites avec des explications et des photos. Notamment le site de notre-planète.info qui est concis et précis et dont j'ai tiré la plus grande partie de ce rapide résumé. Il nous reste encore quelques minutes pour cette émission, alors on va parler de quelques nuages rares. Et oui, il en existe. Il existe même des chasseurs de nuages qui se baladent partout pour prendre des photos de ces phénomènes si ponctuels et soudains. Un peu comme les chasseurs de tornades, avec un peu moins de risques peut-être. Et il existe bel et bien un groupe spécialisé dans cette activité de chasse de nuages, la Cloud Appreciation Society, CAS. Elle mène même un combat, en dehors de combattre la pensée du ciel bleu qui est trop monotone, elle cherche à faire reconnaître l'existence d'un nouveau type de nuage, l'asperatus. Il semblerait que les passionnés soient déjà convaincus depuis longtemps et que l'Organisation mondiale de la météorologie, donc OMM, a étudié la question pendant un certain temps. Ce nuage a été vu particulièrement souvent vers la fin des années 2000. Il ressemble à une mer houleuse et donc le nom qui a été proposé est « tourmenté » en latin. Et finalement, c'est en 2017 que l'OMM a reconnu ce nouveau type. Mais reprenons nos nuages rares. De nouveau, on vous invite à chercher des images sur internet si ça vous intéresse. Franchement, ça vaut le détour. Le premier qu'on va citer, c'est le nuage de Kevin Helmholtz, qui a pris le nom de deux scientifiques, Lord Kelvin et Hermann von Helmholtz, qui ont étudié cette perturbation atmosphérique. C'est un nuage qui a une apparence de vaguelette, comme un enfant les dessinerait à la surface d'une mer. Il se forme quand deux couches d'air superposées ont des températures et donc des densités différentes et qu'elles se déplacent à des vitesses différentes en fonction de la force du vent. Ensuite, on a le punch hole, ou nuage perforé. C'est un trou circulaire qui se forme dans une nappe de nuages qui peut être pommelée ou non, quand l'eau des nuages est inférieure à 0 degré, mais qu'elle n'a pas encore complètement gelé. Une zone du nuage va s'assécher et l'humidité ambiante est captée par une partie des cristaux qui deviennent alors assez gros pour chuter. Le nuage lenticulaire, celui-là, il est assez connu, notamment dans des photos au-dessus d'un pic de montagne.
C'est une sorte de grand cercle de nuages stationnaires qui se forme et recouvre entièrement le sommet des massifs. Il peut avoir une couche ou plusieurs. Parmi les connus, il y a celui qu'on appelle l'âne du Mont Blanc ou la nappe de la Table Mountain en Afrique du Sud.
Les nuages nacrés sont des nuages particuliers qui se forment bien plus haut que ceux dont on a parlé jusque-là. Ils se forment dans la stratosphère entre 15 et 20 km d'altitude. Ce sont des nuages polaires qui apparaissent surtout en hiver à proximité des pôles et ils participent malheureusement à la destruction de la couche d'ozone parce qu'ils supportent des réactions chimiques qui produisent des molécules qui participent à la destruction des molécules d'ozone. De jour, ils ont une apparence de cirrus, donc de voile, mais au lever et coucher du soleil, ils prennent des couleurs nacrées.
Et finalement, l'arcus est un nuage bas, très long, comme un rouleau, étalé sur plusieurs kilomètres. En général, il précède un orage puisqu'il est situé à l'avant immédiat de la ligne des précipitations. Il a un aspect très menaçant.
Et c'est sur ces derniers exemples de nuages que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette émission scientifique et que vous avez appris plein de choses sur les nuages que vous ne regarderez plus de la même manière.
Concernant les autres activités de Nariès, nous sommes dans la 9e semaine de 2022 et donc le 9e défi de notre Eco-Challenge 2022 est de ne pas utiliser de véhicule au moins 3 jours durant la semaine. Profitez donc de marcher, de faire du vélo, du patin ou de la trottinette et laissez les moteurs au repos pendant quelques jours.
Notre prochaine sortie nature aura lieu le 20 mars et aura pour thème la faune des parcs. Nous irons dans le parc Stani à Chêne-Bougerie pour observer et discuter des adaptations que les espèces urbaines possèdent pour vivre aussi proche des humains.
Et finalement, le 22 mars, nous vous proposons un nouveau cours de cosmétiques sur le thème de ménage écolo ou comment entretenir sa maison sainement et écologiquement. Toutes les infos et les inscriptions à nos activités se passent sur notre site internet www.naries.ch.
On a été ravis de vous retrouver encore une fois et de vous parler de nuages et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tournus de nos émissions et un côté passion. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine à tous.
Genève. Côté nature.